RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 21h ce soir, toute l'équipe de l'Intégral Tour vous accompagne pour la dernière fois dans cette édition 2023 de la Grande Boucle qui va donc s'achever tout à l'heure sur les Champs-Élysées avec la traditionnelle étape et le sprint sans doute qui sera réglé par Philippe Sen ou un autre. Pour l'instant, mon cher Pierre, on va faire. Tiens, si on faisait un top course, on va se faire plaisir quand même. Allez, un petit top course à 104 km de l'arrivée.
RMC
Top Course.
Eh bien, les coureurs sont partis maintenant depuis 11 kilomètres parcourus en exactement 25 minutes. Ça roule pas très très vite, hein. Aujourd'hui, 11 kilomètres en 25 minutes. Eh bien oui, bien sûr, c'est la parade, la dernière étape entre Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui et Paris, les Champs-Élysées. 3300 kilomètres déjà de parcourus. Il en reste 104 encore pour arriver au total complet de ce Tour de France 2023. Pas d'échappée, évidemment. Le peloton musarde tranquillement dans le département des Yvelines. Et puis ensuite, il y aura les Hauts-de-Seine et puis le 75 Paris. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, avec un Tadej Pogacar là qui fait plaisir aux supporters en donnant sa surveste. Ça, c'est pas mal. C'est mieux qu'un bidon, Jérôme. Ça, vraiment, ça vaut le coup.
Ah ouais, un maillot de Tadej Pogacar, quand même, ça c'est la classe, hein. Ouais. Le petit enfant là va avoir des étoiles dans les yeux pendant un bon petit moment.
Ça va être un petit peu grand pour lui. En revanche, je viens de trouver une statistique intéressante. Ce sont les plus grands vainqueurs d'étapes de haute montagne, un classement des garçons qui ont gagné les en haute montagne des étapes. Donc forcément on trouvait Di Merckx en premier avec 10 victoires en haute montagne. Alors je ne sais pas où est la limite entre haute et moyenne montagne par exemple. Derrière c'est Gino Bartali avec 9, Marco Pantani avec 8, et puis on rentre dans un cercle de plusieurs coureurs à 7 victoires. Charlie Gaulle, Federico Bahamontes et Lucien Van Impe. Et depuis hier, très certainement, puisqu'on peut considérer que c'était de la haute montagne.
Bien sûr, peut-être c'est les arrivées au sommet, je ne sais pas si on considère haute montagne.
Tadej Pogacar, donc il va, lorsqu'il rentre, peut-être, il réussira à s'imposer à nouveau en haute montagne, eh bien, entrera dans le top 3 des coureurs avec Eddy Merckx, Gino Bartali et Marco Pantani. Ça montre aussi à son âge les records qui pourraient exploser pour Tadej Pogacar, contrairement à Vingegaard qui ne s'impose pas beaucoup sur les Tours de France finalement.
Oui, parce qu'il va terminer, Cyril, ce Tour de France avec une seule victoire d'étape acquise lors du contre-la-montre, et de quelle manière. Mais c'est vrai que les grands vainqueurs, on aime les voir briller aux arrivées au sommet. Une seule victoire d'étape, c'est un petit regret pour toi, vu la domination quand même, 7 minutes 29 d'avance et une seule victoire dans un contre-la-montre.
Oui, c'est déjà bien de gagner un contre-la-montre. Mais je pense qu'il aurait peut-être pu en gagner davantage s'il n'avait pas eu, sur certaines grosses étapes de montagne, le problème Pogacar, parce qu'il fallait quand même qu'il gère Pogacar. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu ne peux pas courir pour gagner le tour et gagner les étapes. Tu es bien obligé de faire des choix. Et il y avait tellement d'étapes où il pouvait y avoir des équipes qui partaient, enfin des groupes, des échappés qui partaient de loin. C'est toujours aussi compliqué de mettre, même s'ils l'ont fait, mais de mettre un cran au-dessus l'ensemble des équipiers pour neutraliser l'échappé avant la dernière ascension ou le dernier passage au sommet. Et puis je ne crois pas que Vingegaard soit naturellement
C'est pas un cannibale,
oui, mais il faut voir les possibilités. Il n'est pas très explosif, donc il est souvent, s'il arrive au sprint, il sera battu par quelqu'un de plus rapide que lui. Donc c'est pas illogique sur la façon dont ce tour s'est déroulé, et Pogacar en a gagné deux, mais aussi parce qu'il a une belle pointe de vitesse. Il peut, et dans certaines circonstances, il peut jouer sur des arrivées difficiles avec les meilleurs sprinters.
Mais par exemple hier, Cyril, Vingegaard semblait vraiment en grande forme. Lorsque Pogacar a produit sa mini-attaque, il est resté dans sa roue sans problème. On aurait pu imaginer, je ne sais pas messieurs, non, une attaque de Vingegaard pour aller remporter l'étape. Il n'en a rien été.
S'il l'a pas fait, c'est qu'il n'avait peut-être pas les moyens.
Ouais, l'impression qu'il donnait.
Est-ce qu'il lui a pas laissé, Cyril? C'est possible, ça?
Non. Non, d'ailleurs, je regarde les images là, de ce départ d'étape. On voit très peu Jonas et Tadej parler ensemble, partager. Ils partagent avec tous les autres, mais pas avec Pogacar.
Moi, je les ai vus discuter tous les deux, moi. Je les ai vus discuter tout à l'heure.
Oui, mais pas
pendant un quart d'heure, mais bon.
Ils vont pas se taper dessus non plus, mais on sent pas véritablement un feeling extraordinaire.
Ouais. Après, je sais pas si Vingegaard discute avec beaucoup de monde pendant des heures et des heures. Ça a pas l'air d'être un grand bavard, hein, quand même. Vingegaard, en bon scandinave, ça a l'air d'être plutôt un taiseux qu'un expressif.
Mais après, à toute la bagarre, à laquelle ils se sont livrés depuis le début de ce Tour de France, bon, ce sont des rivaux, ce sont pas des copains.
Oui, et puis, bon, après, ça empêche pas de parler, mais c'est ça, ils sont pas forcément proches. Je veux dire, c'est pas parce que tu gagnes le Tour que tu dois faire des grands discours à ton dauphin ou inversement. Oui, voilà, ils sont pas copains, ils sont dans deux équipes différentes. Ils s'apprécient certainement sur le vélo et dans leur manière de courir la bagarre qui nous propose. Après, voilà, je pense pas qu'ils partiront en vacances ensemble, mais je pense pas qu'ils soient fâchés non plus.
Mais c'est difficile, j'imagine. Enfin, je sais pas, j'ai pas été coureur du Tour de France, mais quand ton directeur sportif, ton manager, tous les matins te dit il va falloir le taper, il va falloir le battre, il est revenu à 10 secondes, regarde ce qu'il a dit. C'est difficile d'être copain derrière quand même. Cyril, ça non, on essaye justement de monter la rivalité quand on est patron d'équipe, non ?
Ou non ? Oui, on peut essayer, mais ça marche pas tellement, il faut qu'il y ait une légitimité. Hein.
Oui.
Vous pouvez dire à quelqu'un, tape sur ton voisin. D'accord,
mais enfin, Vingegaard, il n'a pas arrêté de taper sur son voisin et vice versa. Hein. Ils sont quand même envoyés des marrons et des gnons dans la figure. On dirait que c'est le monde des bisounours chez vous, tout le monde s'aime, quoi.
Non, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est pas pour ça qu'ils sont fâchés non plus.
Non, j'ai pas dit qu'ils étaient fâchés.
On n'en sait rien au final.
Non, fâchés sûrement pas, mais je pense pas qu'il y ait vraiment un feeling entre les deux, mais c'est pas lié au directeur sportif et au discours du directeur sportif le matin de l'étape dans le bus et répété chaque jour. Comme je dis, pour que deux personnes en arrivent à se haïr ou à se détester, il faut qu'il y ait une légitimité de fait.
Non, mais
pas uniquement les discours.
Cyril, tu as connu la grande rivalité entre Anquetil et Poulidor. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde après leur carrière, mais pendant leur carrière, c'était pas loin d'une haine réciproque quand
c'est
même
sûr
entre les
que
deux.
La rivalité, les enjeux sportifs, ça crée des tensions. Je veux dire, on écoutait la Formule 1, c'est encore un petit peu différent parce qu'il y a les histoires de réglages et tout ça, mais entre coéquipiers dans la même écurie, déjà, la plupart du temps, ils peuvent déjà pas se voir alors qu'ils ont quand même un intérêt commun. Il faut bien que ça soit l'écurie qui gagne. Donc imaginez quand vous êtes en plus pas dans la même équipe, plus tous les enjeux qu'il y a autour. Mais je sais pas, toi Cyril avec Lemon et Hino par exemple, ils s'entendaient bien même quand ils étaient dans la même équipe.
Non, je crois qu'il y a eu beaucoup de tensions avec Bernard Tapie.
Oui.
Et quand je dis beaucoup de tensions, oui, puisque même Lemon en est arrivé à dormir avec son vélo.
Lemon et Hino, je me rappelle d'une interview. Alors qui l'avait donné en début de Tour de France Lemon. Entre Fignon et Hino, pardon. Où Fignon se moquait un peu de Bernard Hino. Il s'appréciait pas des masses non plus les deux, Cyril.
Non, mais parce qu'il y avait des rivalités, mais qui étaient là aussi logiques, légitimes. Vous êtes dans la même équipe et vous avez tous les deux le même potentiel. Qui est-ce qui va prendre le leadership? Il y a un moment où il y en a un qui va être obligé de prendre le pouvoir. Donc c'est des luttes de pouvoir, ce qui ne veut pas dire qu'on a obligatoirement envie de le mettre dans les fusains, quoi. Et pour revenir à Anquetil Poulidor, moi j'ai fait pratiquement 6 ans en chambre avec Raymond. Par rapport à Anquetil, quand on en parlait, il n'avait pas la haine de Jacques Anquetil. Il reconnaissait que sur un certain nombre de domaines, bon ben l'autre, tu crois l'avoir battu, mais en fait tu l'as jamais battu. Puis c'est lui à la sortie qui gagne, quoi.
Il y avait eu quelques tensions dans un certain Paris-Nice. Cyril. Alors je te ressors.
Oui, il y en a eu un sur Paris-Nice. Oui.
Ouais. Ça avait été très tendu à l'époque.
je n'étais pas encore dans la même chambre, puisque c'est. En fait, il y avait. Enfin, faut aussi connaître l'histoire, mais parce qu'il y avait un troisième personnage qui s'appelait Rudy Altig dans cette affaire. Et cette affaire, d'ailleurs, on l'a évoquée avec Raymond, et pas qu'avec Raymond, puisqu'une fois, on a vu un entretien chez les frères Bertrand à Marseille, et il y avait Lucien Aymar qui était là, et où on a évoqué cette étape de Paris-Nice. Ça vaut son pesant de cacahuètes, mais je ne sais pas si c'est racontable.
Bon, tu nous raconteras ça autour d'un
oui,
bon
oui,
verre.
Oui, mais quand vous serez gentil avec moi, parce que soirée. Vous n'êtes pas très gentil avec moi.
Et on rappelle aussi que la fin de la guerre, entre guillemets, entre Lemond et Hino, c'est quasiment ce passage main dans la main en 1990 à 1986 en haut de l'Alpe d'Huez.
Oui, mais ça c'est une mise en scène.
C'était pour la photo.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est quand même la fin un petit peu de leur tension, parce que Bernard Hino accepte finalement de travailler pour Greg Lemond ce jour-là.
Ouais. Oui, seulement dans les Pyrénées, il n'avait pas accepté de travailler pour Lemond, il avait même flingué. Et il gagne l'étape, il avait mis Lemond à 5 minutes. Ça s'est renversé le lendemain quand le Béraud qui avait attaqué en bas du Tourmalet s'est explosé tout seul.
Après. Oui, ça c'était avant. Ouais.
Très bien, c'était mieux avant, mais là je suis sûr qu'il n'y a pas de grande sympathie entre Pogacar et Vingegaard. Ils sont des rivaux, ils sont restés très corrects l'un envers l'autre. Je me rappelle l'année dernière quand l'un a failli chuter, l'autre l'a attendu. Bref, voilà, ce sont deux grands champions. Oui, c'est vrai. Il a failli tomber juste derrière.
Ah, puisque t'es tombé, je vais tomber aussi. Allez.
Alors, Jonas Vingegaard, dont on a appris ce matin qu'il allait finalement, c'était hier soir, je crois, en conférence de presse, qu'il allait bien disputer la Vuelta, qui débutera à la fin du mois d'août. Alors là, il n'aura pas Pogacar face à lui, mais il aura Remco Evenepoel. Et on a hâte, messieurs, de voir ce que ça va donner, parce que ce sera le premier affrontement dans un grand tour entre Remco et Vingegaard, entre le vainqueur du dernier Tour d'Espagne et le vainqueur du dernier Tour de France. Ça va être sympa à voir. Hein,
oui, il y aura Roglic aussi.
Voilà, il y aura Roglic. C'est exactement aussi ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a aussi un autre adversaire et qui aura le même maillot que lui. Il aura Roglic. Oui, ça va nous donner un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir au Tour de France de 2024. Hein. On parle bien sûr Pogacar, Vingegaard et Remco Evenepoel qui devrait découvrir le Tour de France l'année prochaine. Ben, on verra ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs inconnus. Hein, comment Vingegaard aura récupéré du Tour de France, comment il aura encaissé le fait de gagner le Tour de France et tout le tourbillon médiatique qu'il y aura après, même s'il le connaît puisqu'il l'a déjà remporté l'année dernière. Est-ce qu'il va aller là-bas pour aider Roglic? Est-ce qu'il va aller vraiment pour sa carte personnelle? Il y a pas mal d'inconnus encore, mais c'est sûr que le duel est en tout cas alléchant. Hein. On veut voir si Remco Evenepoel pourra jouer l'année prochaine dans la même cour que Vingegaard et Pogacar.
Il va y avoir une startlist formidable.
Ne pas oublier Ayuso aussi, normalement, qui devrait être au départ.
Henrik Maas, on rappelle que l'année dernière, il était quand même podium.
Qui sort donc d'une grave chute sur le tour.
Ils ont la bourdonne de la première étape.
Karine Thomas, Carlos Rodriguez, peut-être aussi.
Peut-être, ouais, on verra. Non, il y aura un.
Non, mais.
Ça fait quelques années.
Là, vous me parlez des outsiders. Les deux favoris, ce seront. Enfin, les deux ou peut-être trois favoris, c'est Roglic, Vingegaard et Remco quand même.
Oui,
dans ce tour,
là, c'est les trois. Ah,
parce que là, au départ du Tour de France, vous aviez donné 15 favoris. Il y en a deux qui sont sortis.
Non, on en avait donné deux. On en avait donné que deux.
Mais là, vous êtes en train de m'en donner 5 ou 6.
Non, là, on en donne. Je pense qu'il y en a trois au-dessus. Attention, Ayuso, à mon avis.
L'année dernière, il n'y avait pas le même âge.
Ouais, il n'a pas joué complètement avec Remco, mais il est très très jeune. Il pourrait encore être espoir, hein, Ayuso. Attention, hein. Il pourrait encore être dans la catégorie espoir. Donc l'année prochaine, on a vu, hein, au Tour de Suisse quand même, il marchait sacrément fort. Alors entre le Tour de Suisse et la Vuelta, il y aura du chemin de l'eau aura coulé sous les ponts. Mais alors, il y en a trois sur le papier au-dessus, mais Ayuso, je le mets quand même pas très loin derrière. Par contre, à Henrik Maas, s'il est au départ, comment il aura récupéré de sa chute, etc. Et je pense quand même qu'intrinsèquement il est un peu plus bas que les autres. Donc quand même, allez, 3 favoris et demi. Ayuso, on va le mettre en demi.
Après, c'est très très montagneux, hein, le parcours de cette année, donc ça va être très très sélectif. Donc Vingegaard peut quand même avoir l'avantage.
Bah, vu ce qu'il nous a montré là, s'il récupère, alors c'est les deux grands tours entre guillemets les plus faciles à enchaîner, Tour de France et Tour d'Espagne, c'est plus facile à enchaîner que Giro Tour.
Attends, il n'y a pas beaucoup de semaines non plus. Hein.
Non, il n'y a pas beaucoup de semaines. Par contre, ça nous donne une indication, c'est qu'il ira certainement pas au championnat du monde, Vingegaard. Je crois que la sélection danoise n'est pas encore sortie, mais à mon avis, il n'ira pas. Il faut qu'il récupère et qu'il recommence une nouvelle préparation pour la Vuelta. Vu ce qu'il a montré sur ce Tour de France face au meilleur coureur du monde ou à l'autre meilleur coureur du monde, Pogacar, ouais, s'il a la même forme, même s'il est 5% en dessous au niveau de sa forme, à mon avis, il sera encore devant.
Bon, vous êtes prêts pour aller à la Vuelta, messieurs, là? On envoie le camion en Espagne?
On envoie le camion.
Allez, c'est parti.
Ça vous va? Mais Rémi Soula, notre réalisateur, il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'aller en Espagne. Ah, si, le dit, oui. Ah, il a envie d'aller en Espagne fin août.
Dès qu'il y a des tapas,
c'est pas gagné.
Dès qu'il y a des tapas,
va falloir que je parle au patron, c'est pas gagné quand même, hein, parce qu'il y a la Coupe du monde de rugby qui débutera au même moment. Très bien, un petit point sur la course. Ah, tiens, on va aller voir Arnaud parce qu'il s'ennuie là-bas, il est tout seul. Il n'a même pas un coureur à voir. Ça va Arnaud sur la moto?
Pas un seul. Ouais, ça va. Bah, écoute, on l'a arrêté la moto là, on a été obligé de l'arrêter parce qu'il va tellement doucement que sinon on allait tomber. Donc voilà, on s'est arrêté en les attendant un petit peu. Non, mais sinon on visite ces Yvelines, ces magnifiques Yvelines, voilà, qui sont traversées aujourd'hui par le peloton du Tour de France et qui forcément font résonner dans les petits cœurs des cyclos amateurs pas mal de good vibes aujourd'hui puisque vous le savez peut-être. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire du vélo pour les amateurs comme pour les professionnels d'ailleurs, notamment la vallée de Chevreuse, non loin du passage aujourd'hui de cette étape du Tour de France. Donc voilà, on visite et puis je vous parlerai de Versailles tout à l'heure quand on passera à Versailles.
Bien sûr, château de Versailles, un petit château pas très connu. Très bien.
Juste une petite stat, ouais. Si des fois Vingegaard remportait la Vuelta, il n'y a qu'un seul coureur qui a été capable de faire le doublé dans ce sens-là, Tour de France puis Vuelta. Donc il rentrerait quand même dans l'histoire. Et oui, parce que ouais, Chris Froome, exactement. Puisqu'avant, la Vuelta avait lieu en avril-mai, donc ça avait été le cas pour Anquetil, pour Hino aussi, mais il y avait beaucoup plus de temps entre les deux grands tours.
Et dans ce sens-là, donc seul Chris Froome l'a réalisé. Très bien, il est 17h21, on va faire une pause avec le Tour de France. On va dans un instant partir au Japon, retrouver notre ami Julien Richard, avec donc le record du monde battu, écrasé même tout à l'heure, par Léon Marchand, le nageur français, dans le 4x100 mètres. 4 nages. Il sera avec nous dans un instant pour évoquer ce record du monde extraordinaire. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Un petit peu moins de 100 km encore à parcourir dans cette 21e et dernière étape du Tour de France. Le peloton est toujours à vitesse réduite en direction de Paris. On va donc en profiter pour aller voir un garçon qui lui a vu une fusée ce matin dans la piscine de Fukuoka au Japon où viennent de débuter les championnats du monde. Ce garçon, il était avec nous l'année dernière sur les Champs-Élysées. Voilà, il va nous manquer tout à l'heure à l'heure de l'apéro. Ça va mon Julien?
Ah, parce que vous faites l'apéro.
Oh bah tu sais bien, à la fin du tour quand même.
Non, c'est pas votre style.
Bon, ouais. Julien qui nous a bien manqué. Il n'y aura pas d'autres championnats du monde ou championnats d'Europe l'année prochaine. Tu seras avec nous donc.
Je crois qu'il y a des choses olympiques. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Je sais pas.
Ça se déroule à Paris.
En plus,
c'est l'été. Ouais, c'est voilà.
Bon, c'est pas l'année prochaine qu'on va te revoir sur le tour alors. Bon, un jour tu reviendras. On s'est régalé avec toi, avec les reportages de Julien qui sont toujours chiadés aux petits oignons. Alors, mon Julien, record du monde écrasé donc ce matin par la petite merveille de la natation française qui était venue nous rendre visite l'an dernier, tu t'en souviens, dans le camion RMC. Il n'était pas en train de se préparer pour une grande compétition. Ce matin, il a été stratosphérique en écrasant le record du monde du 400 mètres 4 nages.
Il était en vacances et il sortait d'un premier titre mondial et d'une première semaine incroyable avec deux titres mondiaux à Budapest et une médaille d'argent. Ce qu'il a réalisé, c'est monstrueux ce soir ici à Fukuoka au Japon. Donc record du monde explosé du 400 mètres 4 nages. Il conserve son titre, donc 4 minutes 2 secondes et 50 centièmes. Il enlève 1 seconde et 34 centièmes au record de Michael Phelps. C'était le dernier record que détenait encore la légende de la natation, l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, tous sports confondus. Et comme un symbole, l'image était assez incroyable, puisque Michael Phelps, il est présent à Fukuoka, il commentait la course d'ailleurs pour NBC, la télévision américaine, et c'est lui qui est venu sur le podium remettre la médaille d'or à Léon Marchand. C'est lui qui a fait une accolade au Français, qui a levé son bras vers le ciel devant le public. Et dans ce public, il y avait notamment les parents de Léon Marchand. Bref, l'histoire est assez folle. Ça ressemble à une passation de pouvoir presque avec ce qu'a réalisé donc Léon Marchand, sachant en plus évidemment que Léon Marchand et Michael Phelps ont un point commun. L'entraîneur Bob Bowman était juste au bord du bassin. Il observait les deux goats, les deux légendes là en train de se passer le témoin. C'est lui qui a forgé Michael Phelps hein, du début jusqu'à la fin de sa carrière pendant plus de 20 ans. Et c'est lui qui depuis deux saisons entraîne Léon Marchand aux États-Unis. Donc voilà un peu pour l'image. Il avait du mal à trouver les mots à chaud, Léon Marchand. On l'a revu après la récupération. Et justement, écoutez-le parler de cette rencontre assez dingue avec Michael Phelps.
Bah, je pense que Michael Phelps, c'est le nageur le plus grand de tous les temps. Donc forcément, c'est assez spécial pour moi. Je l'ai rencontré ce matin pour la première fois, en plus. Donc c'est plutôt amusant. Et voilà, il a commandé la course. Il était super content pour moi. Donc c'est génial. Je suis hyper content de pouvoir le faire aujourd'hui.
Voilà, il lui a même glissé quelques conseils, figure-toi, pour aller encore plus vite sur les prochaines courses. Et notamment, il lui a dit qu'il pouvait nager plus vite sur la dernière partie de la course, qui est le 100 mètres de crawl, tu sais, le 400 mètres de nage, c'est 100 mètres de papillon, 100 mètres de dos, 100 mètres de brasse, 100 mètres de crawl.
Oui, parce que son record du monde, il était en avance, très en avance avant la quatrième nage. Et c'est vrai que sur le crawl, il a un tout petit peu perdu de temps, mais enfin, il était quand même largement devant pour le record du monde. Mais la marche est un petit peu réduite.
On l'a pas trouvé bon sur la dernière.
T'as raison, franchement, on peut mieux faire. Il colle quand même, messieurs, il colle 4 secondes au deuxième de cette finale. Carson Foster, pardon, l'américain, qui n'a vu que les pieds. Alors il a résisté, hein, il a fait de la résistance, il a tenu Léon Marchand jusqu'au parcours de brasse et après il a passé la vitesse supérieure, Léon, et personne ne l'a revu. 4 secondes sur Carson Foster, 6 secondes 91 sur Daya Seto, triple champion du monde du 400 mètres 4 nages, le japonais à domicile. Donc c'est vraiment considérable ce qu'il a réalisé. D'ailleurs, c'est assez intéressant de l'entendre parler de ses sensations. Il avait le public japonais avec lui, figure-toi, entre autres, parce qu'il est énorme, parce que la performance est monstrueuse. Mais quand il est arrivé à Tokyo il y a 2 semaines pour le stage de préparation, il y avait une télé nippone qui l'attendait, qui lui a offert des cadeaux Dragon Ball Z. Et Léon, il a fait un petit kamehameha à la caméra, ça a beaucoup plu. Ils lui ont donné un petit surnom aussi de Saiyan.
C'est quoi un kamehameha,
Super Saiyan.
C'est quoi un
kamehameha? C'est Dragon Ball Z. Tu sais, là,
c'est pas ma génération.
Non, ça, c'est pas nous, ça.
Jérôme, c'est sa génération. Vas-y, fais-nous
Bien sûr, quand même.
Jérôme qui nous imite Kamehameha. Je sais pas, il fait un drôle de geste avec les bras. Voilà.
Donc, il a senti cette énergie du public, Léon Marchand.
D'accord. Magnifique.
On écoute.
Ouais, c'était génial. J'avais déjà ressenti l'année dernière, mais c'était assez différent cette année. Je me sentais tellement bien que je voulais vraiment pousser le temps au maximum. Et surtout, il me restait encore des jambes pour finir. Et surtout, voilà, tout le public m'encourageait, donc je sentais que ça allait le faire. Ouais, quand je touche 300 mètres, je sais que je suis devant. Donc le titre, je pense que c'était bon. Sachant qu'il me restait encore des jambes pour vraiment finir le 400 mètres, je savais que c'était bon. Par contre, quand je touche le mur, c'est le temps qui m'intéresse. et je regarde le temps, j'y crois pas trop, je regarde 4-2, je fais mais non, c'est pas possible. Je me retourne et je vois 4-2. Donc c'était un moment assez spécial. C'est génial.
C'est un peu rassurant de voir que même lui, il est surpris
Julien, 4 secondes d'avance sur son adversaire le plus proche, c'est mieux que 4 minutes 38 dans un contre-la-montre du Tour de France ou non?
Ah oui, je pense. Je pense qu'il y a... Non, je sais. C'est vrai que ça, c'est difficile à comparer, tiens. Mais non, mais c'est quand même une marge assez phénoménale. Et surtout, peut-être pour terminer avec Léon, pour l'écouter, c'est que, en fait, pour lui, il nous le disait avant, il se focalisait pas sur ce record du monde, mais plutôt, il considérait ça comme une étape pour arriver à ses objectifs. Et ça veut dire que c'est pas fini. Ça veut dire que non seulement sa semaine est loin d'être terminée, on va y revenir, mais sa marge de progression, il sent qu'il peut encore mieux faire. Léon Marchand.
Je vais toujours chercher plus loin. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que je peux faire. Entre ce que je fais à l'entraînement tous les jours, entre l'intelligence que j'y mets, les moments un peu plus durs, les moments un peu plus faciles. Et je pense que je peux continuer à m'améliorer, à descendre en dessous de 4-2. Donc voilà, c'est pour la suite.
Ouais, il peut encore faire mieux. Voilà, peut suite, encore faire mieux pour l'année prochaine, quoi.
Exactement, et puis voilà, il va quand même prendre le temps de savourer. C'est ce que lui ont dit un peu tout le monde, hein. Ici l'équipe de France, ok, il y a un protocole très strict, tu sais, de récupération, et Bob Bowman est hyper à cheval pour tenir une semaine de compétition à un très haut niveau, parce qu'elle est très longue sa semaine, mais quand même ce soir il va en profiter, prendre le temps de profiter de ces moments qui restent quand même assez rares, et voilà, c'est un truc un peu phénoménal quand même ce qu'il a réalisé.
On a perdu Julien,
je sais pas si tu nous entends encore. C'est dommage, j'allais demander s'il avait le droit de prendre une grande bière.
Ah non, parce qu'il a des compètes derrière. Hein.
Ouais.
Il a des compètes derrière.
Dis donc, il y a un sprint tout à l'heure. Il y a un sprint. Les Jumbo, ils sont en train de boire une coupe de champagne là.
Bon.
Ouais, c'est l'heure de la coupe de champagne. C'est poison, avait dit Richard Plugue. Il a dû être débranché.
Mais il y a peut-être pas du champagne dans les coupes là.
On ne sait pas. En tout cas, il y a quelques coureurs de cette équipe, je peux vous dire, qui crachent pas dessus en tout cas en soirée. J'ai fait.
Vas-y, balance des noms. Balance. Van Barle.
Par exemple.
Ouais, voilà, j'en ai un. C'est vrai qu'il a une bonne tête de fêtard, Van Barle. Il y en a d'autres.
Il y a un Français dans cette équipe, non?
Christophe Laporte. Non, je suis pas sûr. Christophe Laporte.
Non, c'est pas celui. Mais il y en a quelques-uns. Je m'arrêterai ici.
Bonjour, on va regarder les plus anciens.
Voilà, les plus anciens, ceux qui ont pu disputer le Tour de France avec Jérôme il y a quelques années. On retrouvera peut-être Julien tout à l'heure.
Parce que lui, il a le beau Léon et nous on a le gros Léon.
Ouais.
Chacun son truc.
Ouais, je pense pas qu'il aille aussi vite, notre gros Léon, que Léon Marchand dans la piscine de Fukuoka. Julien Richard, notre envoyé spécial qui va nous faire vivre ces championnats du monde durant toute la semaine. 17h33, on va retrouver, voir notre ami Arnaud Souk à la vente de la course. Il y a un château, mais c'est pas celui de Versailles, ça. Ou alors, je ne comprends plus rien, mon cher Arnaud. On voit un magnifique château sur les images de la télévision
qui
sont fournies, mais c'est pas celui de Versailles. Non, c'est pas. Je l'aurais reconnu quand même.
Alors, attends, tu peux répéter ta question, s'il te plaît?
Quel est ce beau château? Non, mais tu peux pas le voir puisque t'as pas les images.
Il y a un château à Élancourt.
Un château d'Élancourt.
J'ai mieux que ça.
Ah oui.
Vas-y.
Ah, mais tu me parlais pas du château de Versailles, du coup.
Non, mais tu peux nous en parler.
Ah d'accord. Non, mais parce qu'en fait on s'est arrêté, on a pris un tout petit peu d'avance avec Marco et on s'est arrêté justement dans les rues de Versailles. On est rue de l'Orangerie actuellement, tu vois. Donc si on continue 500 ou 600 mètres devant nous, on arrivera devant l'Orangerie du château de Versailles où sont sortis tous les orangers en été. Et puis en hiver on les rentre justement, voilà, pour les laisser, pour éviter qu'ils ne gèlent et pour qu'ils puissent donner leurs jolis fruits. Et puis alors, puisque vous parliez d'Élancourt, vous apercevrez peut-être aussi dans quelques instants le siège de Renault à Élancourt. Voilà, vous savez qu'avant il était un endroit où on va passer d'ailleurs tout à l'heure sur l'île Seguin. Enfin, on va passer juste en face quand on longera la Seine, et évidemment les usines Renault de Boulogne-Billancourt ne sont plus dans ce coin-là depuis un petit moment, mais voilà, il y a du Renault à Élancourt, et donc
tu dis ça pour Cyril, pour Renault Gitane.
Pardon, hein.
Par exemple.
Oui, Cyril, ça te rappelle des bons souvenirs forcément.
Je sais pas, j'ai pas suivi la conversation.
Il
est en pleine sieste. Alors, on en profite pour retourner.
Si je m'endors, Cyril, vas-y, n'hésite pas.
Non. Il est fatigué, Cyril aussi. Tu te rends pas compte, toi, plus de 3 semaines et demie de Tour de France, alors que tous les copains de la rédaction sont en train de nous rejoindre. L'équipe de la Radio Digitale qui vous a régalé durant ces 3 semaines. Oui, on retourne faire un petit tour. On a retrouvé Julien Richard à Fukuoka, donc pour les championnats du monde de natation. Julien, avant de te laisser aller dormir, parce qu'il doit commencer à être un peu tard au Japon, le programme de Léon pour. Minuit, oh ben ça va, c'est ton heure, ça, minuit et demi.
La piscine va fermer.
Quand t'étais sur le Tour de France, t'étais rarement couché avant minuit et demi. Donc voilà.
Il y a les gros transferts.
Les transferts, c'est rigolo. Julien, le programme donc, Léon dans les jours à venir, combien de médailles d'or peut-il encore aller chercher? Combien de records du monde peut-il encore décrocher?
Alors déjà, demain, c'est repos pour Léon Marchand. Et après, le programme, c'est avec un gros point d'interrogation. Léon Marchand, l'an dernier, il avait décroché 2 titres sur 200 et 400 mètres 4 nages. C'est son programme de base, hein, les deux courses de 4 nages, le 200 et 400 mètres 4 nages. Il avait décroché l'argent sur le 200 mètres papillon, donc ça, ces courses-là, elles sont à son programme. Sauf que, eh ben, il a des problèmes de riche, Léon Marchand, et il a rajouté le 200 mètres brasse parce que au championnat de France à Rennes, il y a 6 semaines, l'air breton lui a réussi. Pierre-Yves, il a nagé le 200 mètres brasse le plus rapide, le meilleur temps mondial de l'année sur cette épreuve. Mais le problème, c'est que ça ne colle pas avec son programme parce que Léon, il a les séries du 200 mètres papillon, notamment mardi, la finale le mercredi. Il a les demi-finales du 200 mètres 4 nage aussi le mercredi. Et c'est surtout jeudi qu'il y a un problème, puisque la demi-finale du 200 mètres brasse est vraiment la course avant la finale du 200 mètres 4 nage. Donc ça veut dire qu'enchaîner ça, ce serait prendre un risque énorme. Il y a en gros 10 minutes, c'est-à-dire qu'il sort de l'eau et limite, il faut qu'il aille se replacer dans la chambre d'appel et repartir pour plonger pour une finale. En plus sur une course où il aura vraiment une grosse concurrence, c'est peut-être là où il a la plus grosse densité. Donc si on l'écoute, Léon Marchand, il a très envie de le faire, on le sent, hein. Mais ouais. On a aussi le sentiment que ça freine un peu du côté de l'encadrement. L'idée, c'était de prendre une décision après voilà, les sensations des preuves de la première
selon
journée.
L'état de fatigue.
Visiblement, on l'air fatigue, plutôt pas mal. Selon la récupération demain aussi, comment il aura récupéré de ses émotions et de sa performance. Et puis après, voilà, c'est un choix. Est-ce que c'est pas le bon moment justement pour tenter ça? C'est vrai que c'est frustrant. Il est meilleur performeur mondial de l'année. Il a une très très grande chance de titre mondial, pourquoi pas même de record du monde si ça n'était pas approché de enfin il s'est approché du record du monde aussi à Rennes, mais il peut pas la faire quoi. Donc
voilà, ce sera le cas également pour les Jeux Olympiques, Julien, ce sera le même programme.
Ouais. C'est un peu différent, parce qu'il y a un jour de plus sur le programme olympique, donc mais il y a quand même un conflit. Il y a quand même un conflit, mais qui est moins embêtant, si je puis dire, que sur ces championnats du monde. Pas entrer dans les détails, c'est un peu fastidieux, mais il faudra aussi, là aussi se poser la question. Mais c'est les problèmes, voilà, c'est les problèmes de riches, et c'est aussi un truc qui que Léon aime beaucoup, c'est-à-dire que se fixer des défis et ce genre de défis. Ça l'excite beaucoup. Donc entre avoir envie et puis faire les choses, voilà, ce sera une discussion avec Bob Bowman, avec l'encadrement de l'équipe de France et puis Léon, savoir comment ils sont et comment ils sentent ça.
Très bien, Julien, on te retrouve.
Et puis il aura des relais aussi. Hein.
Ah ben,
il aura aussi des relais. Il devrait notamment faire le relais 4 x 200 mètres nage libre, qui pourquoi pas pourrait commencer à se rapprocher d'un podium. Ça, ce serait une bonne nouvelle pour l'équipe de France.
Merci Julien, on te souhaite une bonne semaine, plein de médailles, plein de Marseillaises et de records du monde. On suit ces championnats du monde avec toi et avec Sophie Camoun qui doit être dans tous ses états aujourd'hui après la victoire de Léon Marchand. Elle ne doit plus toucher terre, notre Sophie nationale.
Et puis il y a Maxime Grousset demain en finale du 50 mètres papillon qui a réalisé le meilleur temps des demi-finales, record de France. Il a battu 2 fois le record de France et qui pourquoi pas pourrait décrocher un podium et pourquoi pas une médaille d'or lui aussi. C'est demain la mi-journée aux alentours entre 13h.
Très bien. Alors,
et ce sera suivi.
En rentrant de la plage, je t'écouterai. Merci Julien. Bonne semaine. Régale-toi. Et surtout, plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes pour les nageurs français qui vont nous régaler. On est à 1 an des Jeux Olympiques, 1 an et 3 jours. On est compte, dans 1 an, ce sera les Jeux. Et on les vivra avec Julien pour la natation, avec tous nos athlètes et avec toute l'équipe d'RMC qui sera mobilisée, évidemment. RMC, on vous le rappelle, radio officielle de ces Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques qui suivront. Voilà pour la natation. Le top course tout de suite à 88 km, 888 de l'arrivée. Le top course.
RMC Top Course.
Et deux hommes en tête sur cette étape ultime, Barguil et Turgis, qui ont faussé compagnie au peloton. Ils roulent à 22-23 à l'heure, mais comme le peloton est à 17-18, ils ont réussi, Jérôme, à prendre du champ. L'ardoisière est venue, c'est la première fois qu'elle travaille aujourd'hui, qu'elle a écrit 30 secondes d'écart sur sa petite ardoise, et voilà, ça a surpris tout le monde.
30 secondes, va falloir qu'ils traînent, hein, justement. Derrière, va falloir que ça commence à s'organiser, parce que quand même 30 secondes à 88 km de l'arrivée, ça peut commencer à devenir dangereux.
Voilà, les deux Français qui se font plaisir et qui prennent un petit peu de champ, et derrière on continue les photos, évidemment c'est pour la blague, c'est pour s'amuser. C'est l'équipe Alpecin qui s'est montrée il y a un instant autour du maillot vert pour les photographes. L'équipe Alpecin au classement par équipe, elle est, Jérôme,
dernière, je crois.
Voilà, bien joué, dernière.
Très bien, le peloton qui passe tout proche du golf national de Guyancourt, magnifique golf, là où s'est disputée la Ryder Cup en 2018, évidemment.
Tu dis ça par rapport au maillot green? Le maillot vert de Philippe Sen.
Bah oui, on risque le de le revoir tout à l'heure. Ouais. Le maillot green. Voilà, il est 17h41. Dans un instant, on part pour Clermont-Ferrand, retrouver Léna Marjac, qui va suivre pour nous le Tour de France féminin tout au long de la semaine. La première étape a été remportée tout à l'heure par la Belge, Lotte Kopecky. On va en parler de ce Tour féminin avec Léna. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
17h44, vous êtes sur RMC, c'est la fin du Tour de France, dans 86 km maintenant. Le Tour de France 2023 tirera sa révérence, et nous, par la même occasion, on... Alors, le Tour de France homme, parce que le Tour de France femme,
lui... C'est parti.
Est parti tout à l'heure. C'était à Clermont-Ferrand et vous allez le suivre tout au long de la semaine avec Léna Marjac qui va remplacer Pierre-Yves Leroux. J'espère qu'elle est entraînée. Tiens, on va lui faire un top course. Mettez-moi un top course pour Léna Marjac, s'il vous plaît.
RMC
Top Course.
Léna, où en est-on dans cette première étape du Tour féminin?
Eh ben, t'es très bon, Christophe. La première étape, c'est terminée avec cette boucle hein, autour de Clermont-Ferrand. Et finalement, c'est une étape beaucoup plus calme que ce qu'on pensait. On pensait déjà voir quelques attaques, et notamment ce duel entre Annemiek van Vleuten et Demi Vollering. Finalement, rien de tout ça. Ça s'est joué dans la côte de Durtol, environ 10 km de l'arrivée. Et c'est finalement Lotte Kopecky qui remporte donc le premier maillot jaune de ce Tour de France. Elle s'impose avec 41 secondes d'avance sur sa coéquipière Lorena Wiebes de l'équipe SD Works.
Et alors, elles sont où, notre Française? Elle est où, la petite Juliette là? Il me semble qu'elle a terminé elle a terminé deuxième du sprint qui est arrivé derrière. Non,
elle a perdu 1 minute 26.
Alors, on a vu les images tout à l'heure, mais j'avais pas le commentaire. J'ai vu juste. Ah ouais, malheureusement, 1 minute 26 ouais. Perdue. Aïe, 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 ouais, c'est un mauvais coup là pour Juliette.
Ouais, Juliette Labousse, ouais, très mauvaise opération. Elle, en plus, on se souvient, elle avait terminé quatrième l'an dernier sur ce Tour de France femme. Elle s'est fait piéger et distancer dans les derniers kilomètres. Et donc, ouais, elle arrive à presque 1 minute 30 derrière la vainqueur du jour. Et pourtant, la coureuse de 24 ans est l'une des seules Françaises qui pourrait prétendre un podium ce soir sur ce Tour. Donc voilà, mauvaise opération aujourd'hui. Et puis aussi un petit peu de déception hein, du côté de l'équipe française de la FDJ. Evita Muzic, qui était 8e l'an dernier, elle aurait d'ailleurs préféré un meilleur finish. Écoutez,
j'attendais à ce qu'il y ait plus de tension dès le début. À partir du kilomètre 80, là, ça a commencé à devenir très très nerveux. Il a failli y avoir plusieurs chutes. Plusieurs fois, je me suis fait peur. Je suis vraiment tout près de basculer et je suis rentrée presque directement. Malheureusement, les autres équipes ne jouaient pas trop la victoire d'étape et ne voulaient pas collaborer avec nous. Je me doutais quand même que ça allait finir comme ça. Je m'attendais à ce que ça attaque vraiment depuis le pied. J'aurais préféré arriver pour la gagne, mais voilà, il y aura d'autres occasions aussi.
Et puis d'autres occasions déjà dès demain avec ce nouveau départ à Clermont-Ferrand, 151 km de course jusqu'à Mauriac dans le Cantal, avec notamment 6 côtes répertoriées. Ça va donc bien grimper, et ce dès le début de l'étape.
Tu vas commencer à connaître Clermont-Ferrand, Léna, hein?
Oui. Alors bon, je garde pas un très bon souvenir de cette ville déjà lors de mon premier passage, lors de la première étape de repos, la deuxième et première étape de repos du Tour de France homme. C'était assez calme.
C'était assez calme. Mais tu avais mis l'ambiance quand même. Attends, parce que Léna.
Non, souviens-toi, ce soir-là, j'étais assez fatiguée.
Elle était arrivée à peu entamée à la première étape de repos. Alors, pour toi, c'était pas une journée de repos en plus. Léna, alors évidemment, le Tour de France féminin n'est pas aussi long que le Tour de France masculin. Tout est rassemblé sur une semaine. Raconte-nous un peu à quoi va ressembler le parcours. Donc, tu te disais, départ de Clermont aujourd'hui. Demain, on repart de Clermont pour aller à Mauriac. Donc, on reste dans la région Auvergne, et ensuite on va faire une petite descente vers le sud-ouest, c'est ça, vers les Pyrénées?
Ouais, c'est ça, vers les Pyrénées. On va passer par Albi, Rodez, et surtout l'étape que tout le monde attend cette année, parce qu'il y a une étape de haute montagne, c'est le Tourmalet, c'est samedi prochain. C'est l'étape que toutes les coureuses nous ont parlé hier lors de la conférence de presse. Elles l'attendent avec impatience parce que c'était un peu le sort d'étape qui manquait sur ce Tour. Marion Rousse aussi l'évoquait, il fallait une grosse étape, dont cette année, direction les Pyrénées, direction le Tourmalet. Et la nouveauté, c'est aussi inédit sur cette saison, sur cette édition, c'est un contre-la-montre, un chrono pour finir et clôturer ce Tour de France. Ce sera donc dimanche prochain, en tout 8 étapes.
Voilà, 8 étapes. Et là, Juliette, Jérôme a des chances de faire son retard, même si on espère qu'elle l'aura fait d'ici là. Avec le Tourmalet, c'est une redoutable coureuse de contre-la-montre, hein, Juliette Labousse.
Oui, elle a déjà été championne de France. Maintenant, déjà malheureusement, 1 minute 20, 26 de retard, c'est quand même...
Van Vleuten s'est fait piéger.
Non, elle s'est pas fait piéger. Voilà, on a eu nos meilleures chances françaises qui se sont fait piéger, puisque Mudzik a fait quand même 6e du Tour d'Espagne, donc elle prétend quand même peut-être un top 5 sur ce Tour de France. Alors elle a perdu un petit peu moins de temps, 43 secondes, mais voilà, que ce soit le Tourmalet ou le chrono, ça pourrait permettre à nos Françaises de revenir un peu dans le jeu. Mais voilà, vous avez quand vous avez des Marianne Vos, des Demi Vollering ou Cécile Ludwig par exemple pour la formation FDJ Suez, bah, c'est compliqué de partir déjà avec un débours de 40 secondes ou d'une minute 26, mais voilà, faudra qu'elle passe à l'attaque pour essayer de refaire le retard.
Il y aura de quoi faire samedi, parce que l'étape dont tu parlais, Léna, il y a évidemment le Tourmalet classé en hors catégorie pour finir, mais avant il aura fallu faire le col d'Aspin aussi, ouais. donc voilà, des écarts sans doute très importants lors de cette étape de samedi.
Et la grandissime favorite, c'est évidemment Annemiek van Vleuten, la cannibale du cyclisme féminin. Cyril, on rappelle qu'elle a réalisé quand même le triplé l'année dernière, hein. Les trois grands tours, et cette année elle est bien partie pour réaliser la même chose. Cyril, tu la comparerais à qui dans le cyclisme masculin et dans les grandes heures du cyclisme masculin? Il y a eu déjà Jeannie Longo qui était elle aussi du genre cannibale, mais là avec Van Vleuten on a encore dépassé les standards de Jeannie Longo, non?
Oui. Il faut dire aussi que le cyclisme féminin a beaucoup évolué, surtout ces dernières années. Le niveau a également énormément évolué. D'une part parce qu'il y a plus de compétitions, il y a plus de confrontations au plus haut niveau. Donc le cyclisme féminin est en train de s'asseoir de façon pérenne et avec des niveaux de performance qui sont absolument extraordinaires. Et la championne du monde, malgré une chute, rappelez-vous, au dernier championnat du monde, a quand même réussi à s'imposer. Donc pour moi, elle est actuellement hors norme. S'il fallait trouver un homme capable ou dont on pourrait comparer, je ne pense pas, le plus proche pourrait être Eddy Merckx, mais bon, c'est difficile à comparer quand même, parce que ouais, on n'est pas dans le même déroulement des courses, les équipes sont pas structurées encore comme le sont ou comme l'étaient les équipes professionnelles, mais oui, c'est Eddy Merckx qui se rapproche le plus.
Ouais, qui se rapproche le plus. Donc Annemiek van Vleuten, vainqueur de la Vuelta en mai dernier et du Giro d'Italia qui s'est achevé il y a deux semaines à peine. Un cyclisme féminin archi dominé par les Néerlandaises, Jérôme. Là aussi, alors on sait que la Hollande est un pays du vélo, on sait qu'ils ont de très bons coureurs chez les garçons. Comment on explique aussi cette domination? Voilà, il y a Van Vleuten, il y avait Marianne Vos avant, il y a comment s'appelle-t-elle,
Demi Vollering,
qui est la grandissime adversaire de Van Vleuten sur ce Tour de France. C'est incroyable cette domination.
Oui, c'est incroyable. Alors de quoi ça vient exactement, je sais pas. Je pense que les équipes hollandaises ont investi beaucoup plus tôt dans le cyclisme féminin. Nous, pendant longtemps, on a eu que l'équipe FDJ qui essayait de développer quelque chose. On rappelle que l'explosion du cyclisme féminin, il est récent. Ça a vraiment presque, voilà, ça a pas explosé l'année dernière. Ça serait pas juste de dire ça, mais c'est vraiment, en tout cas, aux yeux du grand public, grâce.
Oui, une renaissance quand même.
C'est
parce qu'il y a eu les années Longo, Margaret.
Oui, mais quand je dis ça a explosé, les femmes étaient bénévoles jusqu'à maintenant. Après, là, il y a des salaires minimums suivant les équipes, etc. Et aux Pays-Bas, elles étaient déjà payées. Il y a une formation qui domine, archi domine, c'est la formation Team SD Works Pro Time, là où elles ont quasiment, enfin il n'y a pas toutes les Hollandaises, parce que maintenant il y a Jumbo Visma et Marianne Vos est là-bas, mais là-bas le cyclisme féminin avait beaucoup plus d'importance que nous on pouvait en avoir en France très tôt. Marianne Vos, elle a gagné en cyclocross sur la route, elle vivait déjà du vélo, ce qui n'était pas possible pour nous. Alors oui, Jeannie Longo, etc. dans son temps, mais maintenant ça commence à se structurer, il y a des équipes, alors les équipes pro, Arkea, Cofidis, etc., qui ont leurs équipes féminines, et il y a des salaires minimums maintenant. Avant, les filles devaient travailler à côté de faire du vélo. On a vu d'ailleurs, l'année dernière, il y avait quand même un gros écart de niveau dans le peloton du Tour de France, parce que bien sûr, pas toutes sont professionnelles à 100%. Dans les petites équipes, malheureusement, les
il y a
les
de grosses coureuses... disparités de niveau et de talent dans ce
talent, peut-être pas, mais en tout cas de niveau, parce que si vous êtes dans une petite équipe, vous n'êtes pas forcément payé, donc vous devez aller travailler à côté, en plus de vous entraîner. Oui, maintenant, dans les formations World Tour, il y a un salaire minimum, et ça c'est très bien. Maintenant les femmes peuvent vivre de leur sport, peuvent s'entraîner comme les garçons, et là le niveau va devenir un peu plus homogène. Depuis l'année dernière, en fait, le calendrier des courses féminines a explosé plus vite que le vivier de cyclistes femmes finalement. Donc c'est pour ça, il faut bien remplir les courses, mais pas toutes avaient encore le niveau pour être au Tour de France. Vous voyez, l'année dernière, elles étaient 40-50 vraiment à se battre. Puis derrière, malheureusement, quand vous devez travailler à côté, vous pouvez pas être au niveau de celles qui font que du vélo. Donc ça, gentiment, ça va se gommer tout ça, et on verra déjà cette année. Mais je pense qu'on aura très vite un peloton de 100 coureuses qui sera vraiment homogène, ouais, et où on aura vraiment une belle bagarre.
On va remercier Léna, à moins qu'elle ait encore un petit mot à nous dire avant de
la... Non, une petite précision, on parlait justement des Hollandaises. Sachez que l'année prochaine, du coup, le Tour de France Femmes 2024 s'élancera justement de Rotterdam. C'est un beau clin d'œil, ouais, au cyclisme féminin là-bas, parce que je pense que quand on voit l'engouement qu'il peut y avoir ici au départ ce matin et à l'arrivée, on peut imaginer ce que ça va être dans un pays où le cyclisme féminin est vraiment très populaire.
Ouais, le cyclisme en général, très populaire.
Et le cyclisme en général.
Aux Pays-Bas,
oui,
je me rappelle le grand départ à Utrecht il y a quelques années.
Formidable.
Avec ces gares de vélo incroyables, ouais, incroyables. Tout le monde a son vélo. C'est comme au Danemark d'ailleurs. On avait pu le vérifier.
À Copenhague l'année dernière.
Merci Léna. Toute petite question à Cyril. Est-ce que tu penses que le cyclisme féminin est mûr pour connaître une évolution telle, par exemple, que le tennis féminin, qui est quasiment au même niveau en termes de popularité, en termes de prize money aujourd'hui, hein, les filles gagne la même chose que les garçons, ou presque. Est-ce que tu penses que le cyclisme féminin est sur la bonne voie pour essayer de grignoter le cyclisme masculin dans les années à venir, Cyril ?
Alors, sur la bonne voie, arriver au niveau du tennis, à mon avis, il faudra un petit siècle, parce que les choses sont différentes. Hein. Mais là, aujourd'hui, si on prend la France, pour la première fois cette année, on avait l'équipe FDJ, que Jérôme a évoqué, Arkea qui est arrivé, qui est en fait le pendant de l'équipe professionnelle. Vous avez l'équipe Cofidis qui vient aussi depuis 2 ans d'être lancée. Ces équipes-là, il va leur falloir entre 3 et 5 ans pour arriver au niveau des équipes étrangères. Mais le mouvement est lancé, et il est lancé, et c'est une bonne chose, il est lancé au travers des structures professionnelles hommes, et c'est ce qui va leur permettre d'être capable de bâtir de vrais projets. Et puis surtout, il faut au niveau des cadettes, des minimes, des cadettes, des juniors, je suis désolé, il faut commencer un travail énorme, parce que à ce niveau-là, encore en France, on fait du vélo quand on a une heure entre les cours.
Même si on a de très grandes championnes en France, peut-être pas sur la route encore, même si Juliette Labousse se rapproche vraiment du très très haut niveau, et du niveau extrême, hein, de ouais. Van Vleuten, elle a terminé deuxième du Giro.
Audrey Cordon-Racco,
mais je parle, voilà, dans d'autres disciplines, on a des Mathilde Gros, on a des Loana Lecomte, on a des Pauline Ferrand-Prévot qui sont vraiment au top mondial. On espère évidemment que Juliette et que d'autres arriveront à leur tour à rattraper les Hollandaises dans les années à venir. C'est sans doute la clé du succès en France, parce qu'on sait que pour que le grand public soit particulièrement intéressé dans notre pays, il faut que nos Françaises et nos Français marchent, même si aujourd'hui le Tour de France n'a même plus besoin que les Français
VTT
marchent.
Le VTT où on brille et qu'on est au niveau mondial, au niveau des autres nations, parce que les structures du VTT sont d'abord beaucoup plus petites, et ce sont des teams en fait, hein, des teams, ouais, avec 2, 3 ou 4 athlètes seulement. Avec tous les préparateurs physiques, préparateurs de matériel, bien sûr les entraîneurs. On ne peut pas le comparer au cyclisme sur route, où là il vous faut entre 15 et 20 filles, plus le personnel. Ce sont des petites structures qui sont indépendantes et qui gagnent leur vie.
Ok, très bien, voilà pour le débat concernant le Tour de France Femmes, que vous pourrez suivre tous les jours avec Léna Marjac pendant la semaine. Le Tour de France, le peloton du Tour de France qui passe devant le château du Roi Soleil. Je ne sais pas si Arnaud est avec nous, tout à l'heure il s'était arrêté. Il est peut-être devant le château de Versailles, je vais nous en parler. Voilà, Arnaud.
Je suis allé m'acheter mon petit dessert parce que j'en ai pas eu à midi, vu qu'on a fait le resto que j'ai mangé chez moi.
Tu pouvais t'en passer, vu tout ce que t'as pris avant.
J'avais un petit peu faim, donc...
Pouvais t'en passer avec tout ce que t'as pris avant.
Mais alors le problème c'est qu'en plus j'ai fait de la boulimie, je me suis acheté un paquet de gâteaux et je l'ai quasiment torpillé en entier. Bref.
Alors que nous, pour information, tu vois, on a encore un petit sac de gâteaux acheté à Bilbao. Oh. Imagine, ah oui, on n'a rien grignoté.
Dur comme la pierre.
Ouais, c'est qu'il devait vraiment pas être bon s'ils sont encore là.
Je crois que vous avez des stocks dans le frigo du camion aussi.
Ah là, c'est pour l'apéro tout à l'heure.
Pour ce soir.
Alors Arnaud, raconte.
Bon, bref, oui, tout ça pour vous dire effectivement, oui, on est dans Versailles. Voilà le peloton qui va descendre cette immense avenue de Paris, direction Viroflay, direction Chaville. On va passer par la côte de la Loge des Gardes, puis descendre sur ici les Moulineaux. Passage incontournable, ou devenu en tout cas incontournable ces dernières années, devant le château de Versailles. C'est aussi ça, en fait, le Tour de France. Hein, c'est quelque part la grandeur de la France, le rayonnement de la France à l'international. Et je pense que, tout comme le sera tout à l'heure la Tour Eiffel ou encore le Louvre et les Champs-Élysées, le château de Versailles, évidemment, fait partie du rayonnement de la France. Alors voilà, oui, certes, c'est un défilé un petit peu ennuyeux peut-être pour le public aujourd'hui devant la télé, mais en tout cas ça fait partie des images, on va dire, incontournables ou devenues incontournables du Tour de France, que de passer devant le château de Versailles.
Merci Arnaud.
Enfin, le rayonnement de la France. Oui, l'année prochaine, on arrivera à Nice.
Avaler,
on arrivera à Nice l'année prochaine, donc ça sera formidable.
Le rayonnement de la...
Là, il va falloir...
Il n'y aura pas un rayon de soleil.
Et ça serait bien qu'on arrive... Alors là, bien qu'on arrive ailleurs qu'à Paris tous les ans. Ça serait bien.
Bah oui, une fois dans chaque grande ville française, ce serait magnifique. Très bien, il est 17h59, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'Intégral Tour, toujours en direct des Champs-Élysées. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.